Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce footpod consacré au huitième de finale de l'UEFA Euro 2020, qui se déroule du 11 juin au 11 juillet 2021, comme son nom l'indique, avec des TM partout. Je suis Nico TM, et avec moi il y a Yann TM.
Salut Nico TM, salut tout le monde TM.
Voilà, il manque que Patrick Sébastien, le réalisateur de TM. Oui, c'était bien Patrick Sébastien qui avait fait ce superbe film français.
Possible.
Une vérification s'impose,
Ah,
mais
au moins.
je sais même pas si Wikipédia sait que ce film existe. Oui, c'est bien un film de Patrick Sébastien sorti en l'an 2000. 26 avril 2000, pour être plus exact. Avec un magnifique budget de 20 millions de francs, soit 3,1 millions d'euros. Et un formidable box-office de 28 353 spectateurs. Maintenant, la question, c'est de savoir si ça fait mieux que les clés de bagnole. Alors, les clés de bagnole de Laurent Baffie. Alors, les clés de bagnole, lui, il est sorti le 10 décembre 2003. Ah ouais. J'ai pas son budget, mais j'ai pas son budget. Et j'ai pas son box-office non plus. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si on nous donne pas les infos, hein, monsieur? Bref,
Oui.
donc, tout ça c'est
À
pour
la place
dire...
du coup, on va parler foot.
Bah ouais, on peut pas parler des clés de bagnole, donc... Faut bien qu'on parle d'autre chose, hein. Donc on va commencer donc par ce premier huitième de finale qui nous a été proposé le 26 juin à 18 h, Pays de Galles contre le Danemark à la Johan Cruyff Arena de Amsterdam, parce que c'était logique d'envoyer le Danemark aux Pays-Bas alors que Copenhague accueillait un huitième de finale. Hein. Voilà, on a bien vu avec les Anglais qui ont été joués à Séville leur huitième de finale. Pardon.
Non, il devait le jouer à Bilbao au départ.
Mmh.
Mais du coup, c'est Londres, hein, faut pas déconner.
Et donc, bah, victoire danoise 4-0 avec doublé de Dolberg, et Braithwaite.
Mais le but est vide, oui.
Et Braithwaite, pardon, qui a vu son but validé par la VAR, et donc la fin du match sifflé dans la foulée. Je crois que les Gallois, ils avaient juste pas envie d'aller aux Pays-Bas. Enfin, si, mais pas pour jouer au foot.
C'est ça.
Oui, je pense que ils jouent en maillot rouge, ils ont été dans le Red Light District, et puis voilà. Hein.
Ouais, non, mais voilà, enfin, c'était pas ouf. Enfin, pas ouf. Les Danois sont une bonne surprise, hein, ça, il faut le dire.
Ben, ils montent en puissance. C'est ce qu'on avait dit finalement après la première journée. Hein. Suivant comment ils allaient réagir par rapport à leurs coéquipiers. Et ils montent en puissance, hein. Ils sont de plus en plus forts à chaque match. Si même Dolberg se met à marquer des buts,
Et le Danemark, qui est un quart de finaliste, qui aura jusque-là réussi l'exploit de ne jamais être diffusé.
Même en quart.
Oui, c'est vrai d'ailleurs.
Oui,
Donc
puisqu'en
ils peuvent se
quart.
faire sortir en quart de finaliste, et jamais avoir été diffusé.
Voilà. En quart, ils vont, enfin, si, ils ont été diffusés partout dans le monde, sauf en France. Ben si, en France, ils ont été diffusés, mais sur beIN Sport. Voilà. Et en quart, donc, ils étaient censés affronter le vainqueur de Pays-Bas Tchéquie, qui se jouait à la Ferenc Puskás Arena, Stadium, je sais pas, enfin, bref, au stade Puskás de Budapest, et non Bucarest. Et donc, ben, tout le monde s'attendait au choc, au derby, entre les Pays-Bas et le Danemark. Eh ben, ça sera le match pas derby du tout entre les Pays-Bas et la Tchéquie, qui s'est imposé 2-0 au but de Holès et de Schick, sur une passe de Holès,
Et oui, avec un très beau
avec
geste de rugbyman du
de Leert,
défenseur irlandais.
oui, de Leert à la 55e, qui lui a valu un petit carton rouge. Oui, j'ai pas signalé, hein, que, comment il s'appelle, Harry Wilson s'était fait expulser, pour le Pays de Galles, enfin, le Gallois Harry Wilson s'était fait expulser puisque c'est à 90e et que ça ne change pas fondamentalement les choses. Hein. Il perdait déjà 3-0, donc Là, par contre, oui, l'absence de Delirte, ben, elle change quand même sacrément la donne. Et oui, c'était assez fermé et c'était surtout des Pays-Bas décevants.
Alors qu'ils étaient impressionnants pendant les poules, au-delà des équipes parfois un peu plus faibles qu'ils affrontaient. Même quand ils affrontaient des équipes un peu plus faibles, je les avais trouvés impressionnants.
Ouais, mais finalement, j'ai eu le sentiment que ben tous les joueurs n'étaient pas forcément au mieux de leur forme globalement hein, sur cet Euro. Je veux dire, ouais, c'est quand même une attaque qui s'est retrouvée portée par Memphis Depay. C'est quand même le mec, personne n'en voulait. Il a fini à Lyon et même pour partir de Lyon, il n'y a pas grand monde qui en veut. Donc ça veut quand même dire. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais c'est
il
pas.
Il n'est pas transféré cet été justement.
Si, si, si. Oui, mais il arrive en fin de contrat. Je veux dire, c'est pas le joueur numéro un sur les tablettes des grands clubs européens. Il se retrouve leader de l'attaque des Pays-Bas. C'est que bon, mais Schick, personne n'en parlait avant l'Euro et là, je pense qu'il va pouvoir négocier un bon petit transfert. Hein. Parce que il cartonne bien. Il faut un collectif et ben j'ai l'impression quand même que ce collectif il passe si bien huilé que ça. Je sais pas. Voilà, je suis pas capable de dire vraiment ce qui s'est passé pour les Pays-Bas. Parce que ouais, honnêtement les Tchèques c'était pas non plus des foudres de guerre sur ce huitième de finale. Hein. Ils ont bien joué, ils étaient bien en place, y a pas de problème et tout. Hein, mais
ouais, mais c'était un peu une purge ce huitième, il faut le dire, jusqu'à voilà, la main du Néerlandais.
Les Pays-Bas, ils auraient dû quand même s'imposer. C'est ça qui est problématique en fait. Ils se sont pas imposés. Et d'ailleurs, ça coûte la place à Franck De Boer qui ne sera plus sélectionneur des Orangers. Voilà. Bon, pendant ce temps, mais dans un autre huitième de finale. Qui se déroulait à Wembley, à Londres, parce que c'est vrai qu'on pouvait pas le jouer à Rome. L'Italie affrontait l'Autriche. Bon petit 0-0 des familles à la 90e minute de jeu. Hein, et les Italiens ils ont bien tourné autour du pot, hein, j'ai envie de dire. Et tout s'est joué en prolongation avec l'Italie qui s'impose 2-1. Et oui, 3 buts dans les prolongations. Chiesa Pessina pour les Italiens et Kalajic qui réduit le score pour les Autrichiens. Et donc 5 dernières minutes bien flippantes pour les Italiens quand même parce que tu sentais que physiquement des deux côtés ça commençait à piocher sévère et qu'une erreur défensive.
Sauf que le but autrichien est magnifique.
Ah oui, non mais c'est pas le problème, hein, c'est pas le problème de la beauté du truc. Et tu sens que les Italiens ils sont quand même un peu dans le dur, que tous leurs remplaçants ils ont déjà 20 ou 30 minutes à part Cristiante qui est rentré à la 108e et Insigne, hein, enfin à la place de Insigne. Sinon les deux c'est 67e et deux à la 84e. Tandis que les Autrichiens, ils en ont fait rentrer 2 à la 106e, 2 à la 114e. Donc tu sentais qu'il y avait du frais chez les Autrichiens et que 2 ou 3 frais pouvaient faire la différence, prendre de vitesse les Italiens, égaliser, puis aller dans une séance de tir au but.
Non, mais après, on peut parler de ce but autrichien, mais enfin, je suis désolé, il est pas hors jeu, l'Autrichien.
Non, pourquoi
Non,
ah oui, le but à le but j'ai envie de dire c'est comme au moins 5 ou 6 buts avant qui sont refusés plus que limite, je veux dire déjà rien que pour par exemple les deux de la France contre l'Allemagne. C'est vraiment très 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 limite hein, là ils cherchent ouais, vraiment au centimètre près hein.
Alors, je ne critique pas le vidéo arbitrage hein, loin de là.
Moi, je pensais que tu parlais du but validé des Autrichiens, en fait.
Non. Je pense que c'est quelque chose de très bien. Il faut que.
Ouais.
Alors, cette histoire-là, effectivement, c'est relou. Mais pour moi, il est pas hors jeu parce que, je ne le vois pas hors jeu. Pour moi, celui de derrière, un peu plus loin, le couvre. Après, je ne suis pas arbitre vidéo. Hein, c'est pas mon métier.
Quand tu vois des révélateurs, tu dis, mais il pouvait pas tracer encore plus gros les lignes, hein, histoire de être sûr.
Oui, les traces grosses pour être sûr que le gars soit dedans, par contre. Ça, c'est un
Ouais,
peu...
c'est...
Rappelle-toi le temps où t'avais pas de ligne. T'as juste le grisé, et c'est tout.
Ouais, non, c'est ça. Et puis souvent, en plus, combien de fois t'as le tout le bas du corps qui n'est pas hors jeu, mais t'as déjà le bras parce que tu cours, tu sais, du mouvement.
Ouais.
Ah bah il y a le bras. Oui, mais attends, c'est des footballeurs, ils ont pas le droit de toucher le ballon avec la main. Donc logiquement, la main devrait pas être hors jeu.
Mais alors après, en fait, il faut que ça se siffle partout, ce genre de truc, c'est-à-dire dans toutes les grandes compétitions. Si ça se siffle dans toutes les grandes compétitions et les grands championnats, eh ben peut-être que ça va se réguler.
Oui, non, c'est.
T'as
Et
une époque,
tu auras toujours
rappelle-toi
des
le football il y a
championnats.
10-15 ans, il y a une époque, c'était la simulation dans la surface. Les arbitres ont commencé à mettre des jaunes. Ça a fini par se réguler. Il y a un moment, tu sais pas pourquoi, les arbitres ont commencé à avoir des consignes.
Ouais, mais
Ça s'est
après
régulé.
t'as toujours un championnat, généralement la France, à qui décide de faire des règles à elle. Souviens-toi aussi, il y a une dizaine d'années, quand soudainement ils avaient décidé de sanctionner d'un penalty tous les contacts sur corner, hein, en fait. Tu t'étais retrouvé avec des matchs où il y avait des pénalties à longueur de temps, c'était juste plus jouable, quoi. Enfin, donc oui, mais
Après,
ça
normalement, il y a
reste,
des
ça reste.
règles et il faut arrêter d'harmoniser. Enfin, il faut s'harmoniser au moins au niveau européen.
Après, ça
Après,
reste.
il faut pas que ça fasse comme dans le rugby où tu as les règles du Nord et les règles du Sud, et où de temps en temps, il y a des trucs sifflés dans le Sud qui ne sont pas dans le Nord et
Mais c'est déjà
à
même
geste
pas harmonisé
équivalent.
au. C'est déjà même pas harmonisé au sein même d'un même championnat, voire même au sein même d'une même journée de championnat. Que tu vois qu'il y a une situation de pénalty dans le match du vendredi soir, t'as la même chose dans un match du dimanche, et c'est pas sifflé de la même façon. Et en restant en France, je veux dire. Tu vois, t'as un truc qui se passe dans le match du vendredi soir, ça fait scandale, tout le monde en parle, et t'arrives au dimanche, bah du coup l'arbitre, même situation, oula, ça fait scandale, je siffle pas, hein, ou inversement, mon copain il avait pas sifflé, alors moi je siffle pour pas faire scandale. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est compliqué aujourd'hui d'être arbitre, hein, il faut le dire.
Ah, c'est un boulot qui doit être très intéressant. Ça, je pense que la discussion avec les joueurs ou autres, ça doit être hyper intéressant. Mais oui, c'est compliqué.
Ouais, c'est. Puis voilà, la VAR, c'est encore plus compliqué parce que vient qu'on te demande de la VAR, qu'on te demande pas de la VAR. Et je pense que oui, qu'il y a ce côté un peu obscur pour le public. Tu sais pas pourquoi la VAR décide de valider ou pas valider. Voilà, je parle pas d'un cas de hors-jeu, hein. Il y a une ligne, il y a pas de ligne. Mais tu vois, sur une situation de potentiel penalty ou main, pourquoi la VAR décide ou décide pas? Parce que t'entends pas
Alors,
finalement les.
je sais que je suis pas objectif concernant ce sport. Je sais que tu sais déjà de quel sport je vais te parler.
Le ping-pong,
Et non,
oui.
ce n'est pas le cricket. Mais encore une fois, ce que j'aime bien dans le rugby, c'est que tu n'as certes pas de. Ils ont arrêté de diffuser les communications entre la vidéo et l'arbitre de champ. Par contre, l'arbitre de champ a un micro et les images sont diffusées dans le stade maintenant. Ce qui fait que l'arbitrage vidéo, il sanctionne au rugby les mauvais jeux, les trucs dans le jeu, en fait. Un peu comme ce qui s'est passé avec le potentiel penalty, on y reviendra, Suisse. L'action a continué, la VAR checkée pendant ce temps-là. Et pourquoi pas? Par contre, les arbitres étant tous équipés d'un micro, t'as des discussions avec les arbitres et les deux juges de ligne, ce qui fait que tu te retrouves avec des arbitres qui disent, bah oui, bah pour moi, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, la règle, elle dit ça, le règlement prévoit ça, donc je vais mettre carton jaune. Et t'as les
Oui.
discussions. Et quand la discussion, elle est motivée, elle est tout de suite beaucoup plus compréhensible. Alors pas pour le public dans le stade, mais dans le stade, ils sont que 80 000, là où ils sont des millions devant la télé.
Oui, en plus, si tu t'appliques ça en Ligue 1, c'est plus des moyennes de 15 000 spectateurs, sauf rencontre type PSG ou OM. Hein. Enfin, un club qui joue contre le PSG ou l'OM. Voilà, tu sais que le PSG vient à Metz, tu vas faire quasiment stade plein, hein, donc entre 25 000 et 30 000 personnes. Mais voilà, si c'est Lorient, tu feras le plein des abonnés, il y aura 10 000 personnes dans le stade, quoi. Mais oui, non, mais c'est ça. Et Canal veut le mettre en place d'ailleurs dans le championnat, le côté micro, parce que justement pendant une année de match à huis clos, ben t'entendais les joueurs, t'entendais les arbitres, donc tu comprenais mieux pourquoi les joueurs venaient râler et qu'est-ce que leur disait l'arbitre. Et c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a un paquet d'arbitres qui soit sacrément plus pédagogue que Monsieur Machin, vous fermez, vous la fermez, c'est moi qui décide. Ah ok. Oui, bah si tu lui dis.
Alors, c'est
si
pas
tu
parce
lui
que
dis
t'as
aussi...
un plus gros sifflet, t'as une plus grosse bite. Enfin, très clairement, et on a l'impression
non,
que c'est ça.
Ça. Il y en a vraiment, c'est ils font leur petit numéro, hein. Oui, il y a pas ce côté pédagogique du bah Monsieur Machin, j'ai sifflé parce que j'ai estimé que vous aviez fait main ou une simulation ou machin. Point barre. D'ailleurs, généralement, les arbitres qui parlent beaucoup comme ça, tu vois, ils sont rarement contestés par les joueurs. Donc, mais il y en a, ils font leur petit numéro, leur petit cirque, et puis voilà. Après, sur 7 euros, on a cette chance de pas avoir d'arbitres qui font leur petit numéro. Donc, c'est globalement, voilà. Hein. Et t'as pas l'arbitre qui te siffle un truc, et puis tu le vois faire les 20 mètres ou 30 mètres qui les séparent avec le grand sourire du « Ah, je vais lui mettre un carton rouge et tout le monde va me regarder. » Voilà, tu vois. T'en as deux ou trois en Ligue 1, c'est comme ça. Mais bon, tu regardes plus la Ligue 1, malheureusement. T'en as marre des cancel show. Est-ce que t'en as marre des Belgique-Portugal qui se sont déroulés à Séville, au stade La Quartara, quoi.
Bref, voilà. Ils se sont pas joués à Bilbao.
Devant 11 504 spectateurs, arbitrés par Félix Brich, l'Allemand. Et donc, but de Thorgan Hazard à la 42e dans une Belgique qui ne peut plus nous reprocher le match de la France contre eux-mêmes en 2018 parce qu'ils ont fait exactement ce match-là. Le Portugal a maîtrisé, la rencontre quasiment de A à Z et ils ont marqué sur quasiment leur seule occasion, quoi.
Oui, c'est ça.
Sauf que quand même, j'avais l'impression que le France-Belgique, la France maîtrisait et s'était mis en mode défensif volontaire, tu vois, et avait ce contrôle tout en restant défense. Donc j'ai quand même eu le sentiment qu'à un paquet de moments, les Belges, ils n'avaient pas vraiment le contrôle de la situation.
T'as vu les mots de Cristiano Ronaldo à la fin?
C'est t'as la faute de la pavard?
Oui.
Non
mais... Et qu'a dit à Courtois, t'as eu du bol, ça voulait pas rentrer aujourd'hui.
Oui, c'est ça, c'est, je sais plus combien ils ont fini, 27 ou 28 tirs, les Portugais, enfin, je veux dire, voilà, il y a des matchs comme ça où rien ne va dans un sens, t'as beau faire le match, entre guillemets, qu'il faut faire, mais ça veut pas rentrer. Voilà, les Belges, je pense qu'ils auraient aimé que ça se déroule autrement, hein, je veux dire, dans le jeu. Mais voilà, ils peuvent être bien contents. Voilà, c'est... Là, les statistiques, c'est 6 tirs, un cadré pour les Belges. Contre les Portugais...
Après,
les Portugais, c'est 24 tirs, 14 à proximité et 5 cadrés. Voilà. Et ils en mettent pas un au fond. Donc, c'est... Et il frappe une fois les montants en plus, hein, donc.
Après, j'ai pas trouvé le Portugal dedans non plus. Hein. Même s'il tirait un peu plus que les Belges.
Ouais, il manquait un peu de ce changement de rythme, de cette capacité à bousculer la défense belge, à les tirer, à la mettre dans le dur. Mais ouais.
J'ai pas trouvé les Belges. Alors, je les ai pas trouvés dedans, mais je les ai pas trouvés à la rue non plus. Hein.
Non, mais. J'avais pas le sentiment qu'ils étaient capables de se dire à un moment, on prend le ballon, on garde le ballon et on contrôle le match. France-Belgique, j'avais ce sentiment-là. Tu vois, pour moi, le France-Belgique 2018, c'est un peu la même chose que la deuxième mi-temps du France-Allemagne là au premier tour. Hein. C'est, on décide volontairement de se mettre en bloc défensif et de pas bouger et de laisser l'équipe adverse casser les dents sur le bloc. Hein. Et ouais, comme les Allemands, comme les Allemands face à nous, là, les Portugais face aux Belges, ils ont manqué cette capacité de changer de rythme, d'accélérer, de détirer les lignes, de jouer sur des longues transversales pour forcer le bloc adverse à coulisser,
ouais,
etc.
Et puis on n'oublie pas que Pep aurait dû prendre un rouge quand même. Hein.
Chut. Faut pas le dire. Après, le problème, c'est que ben, je sais pas comment ça a évolué, mais voilà, Eden Hazard qui peinait à revenir et puis surtout Kevin De Bruyne sort blessé quand même, donc
alors qu'il revenait de blessure depuis la finale de la Ligue des Champions.
De Bruyne?
Ouais.
Non, et Hazard, oui, Hazard il revenait de blessure, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a pas joué sur les premiers matchs.
Hazard c'est la Ligue des Champions? Pour moi, c'était De Bruyne, la Ligue des Champions.
Mais ouais, non, mais voilà. Après, sans Kevin De Bruyne, ça va pas du tout être la même équipe belge. Hein. Attends, alors là, je regarde vite fait une news d'il y a 24 heures. Bon, ben, Roberto Martinez a donné des nouvelles rassurantes concernant les deux hommes. Il a déclaré que le tournoi pour ces deux joueurs n'était pas terminé, n'ont pas subi de blessures graves. Nous disposons de peu de temps, mais nous allons travailler jour après jour afin de les récupérer pour le match contre l'Italie.
Oui, bon, bref, ils vont entrer à la 70e, quoi.
Les tests d'aujourd'hui nous ont soulagés. De Bruyne peut rester avec nous. Je pense qu'ils ont tous les deux 50% de chance de jouer contre l'Italie. La Belgique affronte la Squadra Azzurra ce vendredi sur M6 pour les quarts de finale du championnat d'Europe. Ça, j'ai rajouté le sur M6. J'allais dire merde, j'ai spoilé le quart de finale. Mais non, parce qu'on avait déjà parlé de ce quart de finale. Alors, on savait déjà que c'était italien, puisqu'on avait déjà parlé du quart de finale italien. Voilà. Donc, il faut bien partir sur un autre huitième de finale. Qui, lui, s'est déroulé au Danemark, où l'Espagne a joué. Alors que c'est ça qui est marrant, c'est que t'as plein de pays qui auraient pu jouer chez eux leur huitième de finale. Personne l'a fait, sauf l'Angleterre. Parce que l'Angleterre a décidé qu'elle ferait pas plus de 42 km sur tout le tournoi entre leur camp de base et Wembley. Hein. Et 48 km en cumulant l'aller-retour entre chaque match.
Mais après, hein. Je crois pas. Pour moi, Wembley ne devait pas accueillir ce huitième de finale-là. C'est parce que Dublin s'est désisté.
Ouais, mais enfin, ça reste que... voilà, quand tu compares aux Suisses qui se sont tapés je sais pas combien d'allers-retours à Bakou.
Ils ont fait Bakou, Rome, Bakou.
Voilà.
Et après, Bakou, Bucarest, c'est un peu moins loin du coup.
Ouais, enfin, moins loin, ouais. Si tu veux, c'est pas tant, l'écart, il est pas tant que ça, mais...
Et rassure-toi, après, ils iront à Saint-Pétersbourg.
Ouais. Donc, non, mais bon, bah voilà, je veux dire, quitte à favoriser certaines équipes pour jouer à domicile, bah, quand ils arrivent en huitième ou en quart, autant, au dernier moment, modifier ça. Bon, ils l'ont pas fait. Ça a pas empêché les Espagnols.
Ça aurait été trop visible.
Ça a pas empêché les Espagnols de taper les Croates en prolongation avec un match complètement malade. 3-3 à la fin du temps réglementaire et 5-3 donc à la fin des prolongations. Et donc nous avons Pedri qui marque contre son camp pour la Croatie à la 20e.
Puis... Ah, il est superbe. Superbe ce but.
Puis Sarabia qui égalise à 38e, Azpilicueta donne l'avantage aux Espagnols à 57e, Fernando Torres à 77e donne un avantage de 2 buts, hein. Les Espagnols mènent 3-1 à 13 minutes de la fin, et heureusement pour les spectateurs et le spectacle, Orsic et puis Pazalic égalisent à 85e et à la 90e plus 2. Ça nous offre des prolongations où là, Morata et Oyarzabal offrent la victoire finale aux Espagnols. Et...
Morata, le maudit. Enfin, je trouvais qu'on en faisait des tonnes sur ce but de Morata.
C'était un petit peu le Karim Benzema du Espagnol. Hein. Quand est-ce qu'il va marquer, en fait? Et c'est surtout le réveil de Torres, quoi, qui marque, qui signe une passe décisive. Et pourtant, c'est toujours Sergio Busquets qui est élu homme du match. C'est logique pour toi ou?
Ouais, après, moi, ce que je te disais pendant le match, à la 80e, je me m'emmerdais encore. Enfin, j'avais vu 4 buts. Mmh. Mais j'ai pas trouvé ça formidable. J'ai pas trouvé l'Espagne dedans.
C'est ce qu'on avait déjà dit à la fin des poules, quoi. Enfin, l'Espagne, elle passe tranquille, mais c'est pas une machine à pulvériser tout, quoi, en fait. C'est vrai qu'il leur manque là, c'est peut-être pas le match pour le dire, parce qu'ils en mettent 5, mais il leur manque vraiment un tueur devant. Derrière, c'est pas non plus l'assurance tout risque, hein, entre la charnière Garcia-Laporte. Bon, après, Aymeric Laporte vient de débarquer en sélection, donc de toute façon, il va falloir travailler des automatismes. Ça se fait pas en 2 matchs de préparation contre la Bulgarie et le Pays de Galles. Hein? apparemment si, hein, les automatismes en deux matchs en bois, ça se prépare, mais bon. Après, ouais, non, c'est des bons joueurs les Espagnols, mais j'ai pas le sentiment que ça soit non plus voilà, il y a 10 ans, elle était meilleure que ça, l'équipe espagnole. Et pourtant,
ouais, elle était championne d'Europe, surtout.
Bah
et
oui, mais
deux fois championne d'Europe, une fois championne du monde.
Voilà, et maintenant, en plus, il va toujours se poser des questions, c'est que Sergio Busquets, bah, il va pas encore durer 10 ans, hein. Il a 32 ans, hein, le coco, donc
il était déjà dans le groupe de 2008 et de 2010.
Alors là, tu m'en demandes peut-être un peu trop
il
sur le coup,
était
mais...
était champion du monde, Busquets, déjà, non?
Il a 125 sélections, il est sélectionné depuis 2009.
Depuis 2000, pardon?
Excuse-moi. 2009.
Oui, donc il devait être dans le groupe, hein.
Ben, il est vainqueur en 2010 de la Coupe du Monde et champion d'Europe 2012.
Champion d'Europe.
Ouais.
Pas comme Deschamps. Enfin, entraîneur Deschamps.
Donc, il a 8 championnats d'Espagne, 7 Coupes du Roi, 6 Super Coupes d'Espagne, 3 ouais, Ligues des Champions, 3 Super Coupes de l'UEFA et 3 Coupes du Monde des clubs.
Ouais, bon, d'accord, il y a 5 trophées en bois là-dedans.
Et donc, le mec n'a jamais joué ailleurs qu'au FC Barcelone. Moi, en parcours senior, parce qu'il a joué à Leida et l'Unió Jabac dans son parcours junior. Mais, ouais, non, mais, voilà, je veux dire, il a 32 ans, tu vas pouvoir compter sur lui, sauf blessure à la Coupe du Monde, et après, ben voilà, donc, parce que si tu me dis le prochain Euro, c'est déjà dans 3 ans. Il aura 35 ans, pourquoi pas. Mais il est quand même en plein milieu, en plein cœur du jeu, donc il court pas mal, ouais. Et ça reste la plaque tournante espagnole, donc il va falloir. Ouais. Bah tu verras après, c'est pareil chez les Croates, hein, Luka Modric, tu vois, mais.
Il est à la fois, on en a entendu parler de ça aussi. Il est à la fois le plus jeune buteur dans un Euro et le plus vieux buteur dans un Euro.
Et à 35 ans, il va avoir 36 ans en septembre prochain, hein, donc bon, pour lui, c'est sûr, c'est son dernier Euro, hein. Et ouais, après. Après, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit plusieurs fois, la Croatie, c'est très bon, mais il manque les joueurs yougoslaves, quoi. Hein, c'est ça, c'est... Il manque... La Yougoslavie, c'était le meilleur de la Croatie, de la Serbie et des autres pays qui composaient cette fédération. C'était une fédération, la Yougoslavie.
Possible.
Voilà. Donc, ce qui fait que ça reste des très bons joueurs, très agréables à voir, mais... C'est vrai qu'il y a quelques petits manques qui font que c'est plus l'équipe aussi impressionnante qu'était l'équipe yougoslave, finalement.
Et puis, la Croatie était impressionnante à la Coupe du Monde. La Croatie était impressionnante à la Coupe du Monde, même que l'Islande était impressionnante au dernier Euro.
La Croatie est quand même régulière, hein, je veux dire, les demi-finalistes de la Coupe du Monde 98. C'est-à-dire, c'est pas non plus une équipe comme l'Islande qui est sortie de nulle part en 2016 et qui est retournée nulle part.
Bah, on verra en 2036.
Que La Croatie a ses cycles, quoi, en fait.
Elle a
Parce que voilà, ils peuvent pas compenser avec les autres pays pour avoir un banc compétitif, pour quand ils ont un creux générationnel, compenser avec les Serbes ou les trucs comme ça. Et c'est ça qui est dommage, parce que c'est vrai que là, j'ai eu l'occasion de revoir des matchs de l'équipe de Yougoslavie dans les années 80, hein, les équipes de Safet Suzic et compagnie. Qu'est-ce que ça jouait super bien, hein.
Toi, tu t'es perdu sur les replays de TF1 et de M6.
c'est vrai que tu les regardais, c'était un peu le côté, il y avait un petit côté brésilien, en fait, un petit Brésil d'Europe, tu vois, c'est super bon techniquement, hein. Tu retrouves cette touche-là, mais moins compétitive, parce que t'as pas le meilleur des 5 ou 6 nations qui composaient la Yougoslavie.
Ouais.
Alors que l'Espagne, t'as le meilleur qui compose les deux Espagnes. L'Espagne de Madrid et l'Espagne de Barcelone.
La Castille et la Catalogne, c'est ça?
Voilà. Et même de la France. Hein. Ah, Aymeric. Oui, d'ailleurs, bien joué, Didier, d'avoir choisi Clément Langlais plutôt qu'Aymeric Laporte. Hein. Et donc, ça nous envoie sur le huitième de finale. Qui se déroulait à l'arène nationale de Bucarest, devant 22 642 spectateurs, arbitré par Fernando Rapalini, arbitre argentin. Parce que oui, on a fait un échange avec la Copa América. On a envoyé un arbitre là-bas, la Copa América, et ils nous ont envoyé un arbitre pour l'Euro. Pourquoi?
Bon, c'est une touche d'exotisme.
Mais en tout cas, il a super bien arbitré, déjà.
Oui, c'était pas mal arbitré.
Il a laissé jouer quand il fallait laisser jouer, il a mis les cartons qu'il fallait. Il y a aucune décision qui prête à confusion. Et ce qui, donc, ça nous a offert un match qui se termine sur le score de 3-3, hein, comme le match
bah là aussi,
qui s'est déroulé 3 heures
plus tôt. 3-1 à la 80e.
Sauf que, ben, la France n'a pas été capable d'en mettre deux en prolongation et donc direct sur les tirs au but. Et, ben, comme énormément de monde le pressentait, Kylian Mbappé, l'a raté. Voilà, moi, j'ai, je me souviens, on était au cours de match, je fais, Kylian, il va tirer en cinquième parce qu'il va vouloir être le buteur final, tu vois. Et puis, ben, Max, il fait, ouais, non, il va le rater parce qu'il est cuit. Bah, ouais. Bah, voilà, il l'a tiré en cinquième, il l'a raté. Et donc, ben, la France, retourne à Clairefontaine. Enfin, retourne à Paris.
Une situation pas claire du tout.
Avant de repartir chacun de son côté, et j'ai envie de dire, bah c'est donc je vais quand même dire les buteurs, hein. C'est Seferovic qui j'ai même pas envie de dire s'impose face à l'anglais parce que l'anglais il a tellement pas joué le duel que je veux dire Seferovic, je crois que l'anglais il a la tête au niveau de la cuisse de Seferovic tellement il a pas sauté et qu'il s'est courbé de peur, hein, en fait. Donc à la 15e minute de jeu, tu as un penalty concédé par Pavard à la 55e que tout le monde a fait ouais c'est bon 2-0 on est mort vu la première mi-temps qu'on avait fait c'est fini et là Hugo Lloris s'est décidé à arrêter un penalty je sais pas pourquoi mais il l'a fait et en 2 minutes Benzema te met un but quand même exceptionnel le contrôle pour ramener la balle il est exceptionnel en plus derrière il enchaîne avec un extérieur tout en finesse. Et donc dans la foulée, il en met un deuxième, et ce qui nous permet de mener 2-1. On récupère la maîtrise du match. Pogba te met une patate superbe à ras du couteau, pleine lucarne. On mène 3-1. On est les meilleurs. C'est nous les champions.
Et on est tous ensemble. C'est le grand jeu. La France est debout.
Voilà les petits Suisses. On les a déjà mangés et digérés. Hein, pas de problème. Ben sauf qu'ils sont combatifs et Seferovic.
Et ben du coup, on les a tellement bien digérés qu'on a fait de la merde derrière.
C'est Seferovic qui réduit l'écart, et là, t'as Delphine qui fait, oh non, je le sens pas. Et ben, elle nous a porté la poisse puisque Gavranovic égalise à la 90e, et je fais, oh putain, tais-toi Delphine, parce que là, ils vont nous en mettre à 4e avant la prolongation.
Non, ce qui était hyper fun, c'était ce côté où on a eu le même scénario de match en fait entre la Croatie et l'Espagne juste avant dans le temps réglementaire quoi.
Bah, c'est surtout que on a 3-3, il reste quelques secondes et là t'as Coman on l'envoie sur la barre quoi. Enfin voilà, il nous a fait une André Pierre Gignac, donc il va pouvoir aller jouer les JO. Hein. Mais elle est magnifique sa frappe quoi. Poum, la barre. Tu dis non, c'est pas possible. C'est et après
c'était bah, écrit comme ça quoi.
J'ai envie de dire, elle est pas du tout imméritée, hein, la qualification suisse.
Elle est pas volée, d'autant plus que les Suisses ont continué à jouer là où les Français se sont arrêtés. C'est-à-dire que si les Français avaient continué à jouer jusqu'à la 90e, comme ils ont joué en deuxième mi-temps, là, j'aurais posé un peu plus de questions.
Mais... En fait, la France, elle a fait son PSG, quoi. Elle a joué 20 minutes, elle s'est dit ça suffit, jouer 20 minutes pour faire son résultat, ça suffit. Reprend ce match en Hongrie qui est une purge pas possible, ils jouent en gros un quart d'heure le temps d'égaliser, et après bon ben un partout, ça nous mettait à 4 points au bout du deuxième match, ça nous qualifiait, il y avait les conditions climatiques qui faisaient que, hein, ils ont pas forcé, ils ont géré le un partout. Voilà, c'est ça cette équipe de France, c'est que la plupart du temps quand tu joues contre une équipe entre guillemets, hein, plus faible, ben en fait elle se contente de jouer par intermittence suffisamment pour prendre l'avantage et après on joue tranquille pépère, le match entre potes de 6 au City Stade le dimanche matin quoi, tu vois, c'est ça, et ça passe. Ben oui, sauf que là la Suisse c'est une équipe super bien organisée qui a une idée, un style de jeu qui d'accord joue défensif mais finalement a beaucoup plus de projection offensive que ce que j'imaginais. Et quand ils partent en attaque, c'est pas deux joueurs en perdition. Non, non, tu vois vraiment le bloc qui remonte pour les aider. il passe en mode défensif, c'est tout le bloc qui redescend, c'est 11 joueurs qui jouent les uns pour les autres. Mmh. Et ouais, non, c'est une équipe qui, d'accord, elle a pas de super grande star, même si, bon, on peut discuter au niveau Xhaka, Shaqiri, Seferovic, Mbolo, c'est quand même pas des noms inconnus, mais individuellement, tu vas pas me dire que Xhaka est plus fort que Pogba, par exemple, ou Kanté.
Non, mais Xhaka, il défend, lui.
Shaqiri, tu vois, c'est pareil, tu vois, c'est des joueurs, tu vas te dire, tu prends l'équivalent français individuellement est plus fort, techniquement, mais ils jouent tous ensemble. Et ça s'est déjà vu qu'ils jouaient pas ensemble, les Français. Et bon, bah, depuis le match, ça, il y a plein de choses qui ressortent, mais c'était, ça se voyait. Le pire, ça a été, Didier Deschamps, il s'est dit, et pour moi, l'élimination précoce du tournoi, parce que j'ai pas envie de dire que c'est un échec, parce que c'est plus qu'un échec. Un échec, ça aurait été de perdre en quart ou en demi-finale, même quand, tu vois, on se faisait sortir par l'Espagne. C'est l'Espagne. On fait un gros match, on perd. Bon, c'est un échec parce qu'on est champion du monde. On s'attend à ce qu'on soit minimum demi-finaliste ou finaliste, tu vois. C'est pas un fiasco parce que le fiasco, ça aurait été d'être sorti en poule. Mais t'es entre les deux. Et pour moi, c'est imputable avant tout à Didier Deschamps qui, depuis.
Du coup, je dirais pas que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
C'est au-delà du... Si, justement, ça a trop marché, en fait. Surtout à 3-1, ils ont fait que marcher. C'est aussi le problème. Et mais ça fait 6 mois qu'il contrôle plus rien, Didier Deschamps. Il est complètement dans la panique. Et souviens-toi, après, quand on avait fait celui sur l'annonce de la liste, où je t'avais dit, pour moi, il a pris Benzema parce qu'il a peur de pas aller jusqu'au bout avec les attaquants qu'il avait. Tu vois, c'est cette peur de... Il est dans la peur, et pourquoi il décide de passer en 3-5-2? Enfin, je veux dire, son pote Laurent Blanc l'a fait avec le PSG, hein. Ça a coûté la qualification contre Manchester City il y a quelques années. Le 3-5-2, c'est un système hyper compliqué à mettre en place, en fait. Je sais, parce qu'à Metz, ils l'ont fait cette année. Et en gros, ils l'ont travaillé depuis le début de saison. Ils le travaillaient régulièrement à l'entraînement, même si au début de saison, on jouait dans une sorte de 4-3-3 ou 4-2-2, enfin 4-4-2. Les blessures ont fait qu'on a basculé, au mois de novembre sur un 3-5-2. Mais il a fallu quand même 4-5 matchs de championnat pour que le réglage soit fait correctement, hein, dans ce 3-5-2.
Et après, il a fallu Turpin pour que ça arrête de fonctionner.
Et non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que t'as travaillé ça à l'entraînement pendant 4 mois. Une fois que tu décides de le mettre en place en match, il a encore fallu 3-4 matchs pour vraiment que les joueurs aient leur repère et tout. Et d'ailleurs, je le voyais, hein, ouais. Je le voyais au fur et à mesure des matchs, quand la façon dont les joueurs coulissent, etc. Il faut vraiment que ça... Non, là, on va décider ça en 48 heures. Et dans ces 48 heures, Monsieur Pogba, il est parti chez le coiffeur, machin, il a été faire ci, truc. Ouais, non. Et ça s'est vu en première mi-temps, mais le nombre de fois où les trois au milieu se regardent, c'est à toi d'y aller, non, c'est à toi, non, mais c'est à moi, entre Pogba, Rabiot et Kanté, parce que, ils savaient pas. Et tu vois Pavard qui est pas du tout, c'est un défenseur central. Là, tu lui demandes de jouer piston, c'est totalement pas son poste.
Sachant que il jouait sur l'aile déjà en 2018, si je dis pas de bêtises, à la Coupe du Monde.
Oui, mais jouer défenseur latéral dans un 4-4-2, c'est pas du tout la même chose qu'être le piston d'un 3-5-2. Et je prends l'exemple de Metz. On a deux joueurs à gauche. Il y en a un qui est plus fait pour le 4-4-2 et l'autre qui est fait pour le 3-5-2. Parce que le 3-5-2 demande beaucoup de courses, demande beaucoup plus de participation offensive. C'est censé être le troisième central qui te couvre, en fait, quand tu montes. C'est tout un truc, je sais pas comment l'expliquer, mais...
Non, je vois.
Ça demande énormément de coulissage et tout, il faut perfectionner ça. Tu peux pas le faire en 3-4 jours, même si t'as les 11 meilleurs joueurs du monde. Même si t'as les 11 joueurs les plus intelligents tactiquement et techniquement du football, tu peux pas. Alors, je comprends pas pourquoi il a décidé de faire ça. En plus, en lançant l'anglais, le mec qui a été à la ramasse avec Barcelone toute la saison et qui a pas joué depuis un mois et demi. Ça n'a aucun sens.
Bah, peut-être parce qu'il avait plus personne, en fait.
Si, il avait les moyens de conserver le 4-4-2, hein, honnêtement. Il avait Léo Dubois, qui est latéral de formation, qui est capable de jouer à droite comme à gauche. Tu pouvais peut-être le faire jouer, non? Non. Non, on s'entraîne même pas.
Il fallait...
De toute façon, par le miracle de la loterie, on passait au tir au but. J'étais Léo Dubois, Wissam Ben Yedder. le soir même, je faisais ma valise et je rentrais chez moi, hein, parce que là, c'était clair et net que peu importe les circonstances, tu jouerais pas. Enfin, je veux dire, t'es le défenseur latéral de métier, on te fait pas jouer, et quand on repasse en 4-4-2 ou 4-3-3, comme tu veux, dans la deuxième, bref, une défense à 4, tu rentres pas. Ils préfèrent mettre Rabiot à ta place. Ouais, c'est bon, quoi. Là, tu joueras pas, hein. Tu te dis, même s'il y a une hécatombe et qu'il reste plus que 11 joueurs disponibles, il mettra Mandanda en latéral à ta place, quoi, tu vois.
Bon, après, ça se, enfin, mais ça se voit, en plus, que cette équipe de France, elle a pas réussi à faire quoi que ce soit. C'est pas une équipe. Enfin, ils s'engueulaient. Celui qui était presque le plus collectif là-dedans, c'était Benzema.
Ah oui, ça, tu peux pas reprocher l'implication de Benzema. Tu sens qu'il était venu, pour être au service de l'équipe. Le problème, c'est que, en fait, je reproche pas à Benzema. Je reproche à Didier Deschamps. C'est qu'il est venu, il a complètement perturbé toute l'équipe, en fait. Mais alors d'une puissance, et c'est pas la faute à Benzema en lui-même, hein. Là, Benzema, je veux dire, il avait rien demandé. Pour lui, c'est l'équipe de France. Tant que Didier Deschamps était là, c'était fini pour lui, hein, en fait. Il le savait, hein. Donc, je pense vraiment pas que c'est de sa faute personnelle.
Et pour moi, c'est Deschamps. Il a arrêté de faire ce qu'on lui reprochait il y a 6-7 ans avant que ce soit fini pour lui, avant qu'il revienne. Et, enfin, tu sais, je me souviens, à chaque fois, on disait, mais arrête de décrocher dans le rond central pour qu'on te voit.
Ou alors, il décrochait sur le côté gauche pour aller jouer sur un petit périmètre avec Ribéry. Bah oui, mais quand t'arrivais à la position de centre, du coup, t'avais personne parce que le milieu se projetait pas, en fait. Donc, au-delà, quand il repense, en fait, le problème n'était pas tant que il se décale sur la gauche pour être le relais de Ribéry qui va faire le centre. C'était les milieux qui venaient pas se projeter pour compenser le fait que Benzema se décalait.
Oui, mais là, Benzema, c'est vrai. On avait marre que Benzema se décale aussi.
Mais c'est vrai que tu voyais Benzema, là, sur 7 euros, redescendre en milieu de terrain pour participer à la construction et tout de suite partir, sprinter pour prendre sa place devant, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en redescendant en milieu de terrain, il bouffait sur Griezmann. Parce que Griezmann, sa place, c'était là, en fait.
Ah oui.
Du coup, Griezmann, après, il savait pas où se situer. Et j'ai pas envie de dire, mais tout est la faute à Mbappé, parce que Mbappé veut pas jouer avec Giroud. Mbappé veut jouer avec Benzema. Mbappé fait ses petites crises de je veux ci, je veux ça. Et tout le monde lui cède tout le temps.
Du coup, Kingsley Coman, blessé, et fait sa crise.
Ah oui, mais il arrive à un moment, pourquoi je peux pas
obligé de lui laisser s'il veut garder un minimum de crédibilité et d'équité entre les joueurs. Mais ça s'est senti déjà dès le début avec les déclarations de Giroud.
Mais je te l'ai dit, quand il appelle Benzema, j'ai fait le problème n'est pas en soi la qualité intrinsèque du joueur Benzema, c'est comment tu vas jouer devant, parce que t'es automatiquement obligé d'aligner les trois. Et ils ont pas joué ensemble, ils avaient pas joué ensemble depuis 6 ans, Griezmann et lui. Ils ont jamais joué ensemble avec Mbappé. Encore une fois, c'est pas en 15 jours avec 2 matchs de préparation en bois contre une Bulgarie en vacances et un Pays de Galles qui en a rien et qui va sûrement pas forcer parce qu'ils veulent pas se blesser ou se crever avant l'Euro, tu peux pas préparer, tu peux pas, et ça s'est vu dès le début. Pour moi, la prise de décision volontaire de Deschamps du « on abandonne le ballon aux Allemands dès le premier match », c'est parce qu'il a vu qu'il y avait pas de construction offensive, qu'on n'était pas capable de construire offensivement devant avec les trois là.
Ouais, mais résultat, rendre des ballons à tout le monde, on finit par en prendre un. Enfin, prendre trois.
Donc, et c'est ce qui est paradoxal, c'est que, encore une fois, contre l'Allemagne, on aurait pu gagner 4-0. Il y a une frappe sur le poteau, il y a 2 buts refusés sur hors-jeu de quelques centimètres. Donc, ouais, c'est paradoxal. Par moment, les trois arrivaient plus ou moins combinés ensemble, mais ça manquait de repères et de préparation, et ça s'est vu. Si tu avais l'intention de faire jouer Benzema à l'Euro, il fallait au minimum du minimum le faire revenir au rassemblement du mois de mars. Et même dans l'idéal, ça aurait été même dès le mois d'octobre pour faire le rassemblement d'octobre, de novembre et de mars. Ça te faisait déjà 9 matchs pour travailler comment les faire jouer tous les trois ensemble. Bah non, tu l'as pas fait. Parce que voilà, pour moi, il a appelé Benzema dans la panique parce que apparemment, de ce qui se dit, Mbappé a fait sa crise au mois de mars. Et ouais, il y a un vrai problème comportemental de Mbappé. Et ouais, pour moi, il a pété les plombs dans son comportement. Jusque là, tu vois, quand tu le voyais en équipe de France, tu disais il se pliait à l'équipe de France. C'est plus le cas. Et ouais, j'entendais Sébastien Tarrago qui disait dans l'équipe du soir, tout le monde dit la bonne poire Griezmann, mais Griezmann, il a un ego comme les autres. Griezmann, c'est un champion. Griezmann, il s'était devenu la star. Il y a l'éclosion de Mbappé en 2018 qui lui fait de l'ombre. Mais il se dit, bon, voilà, il y a nous deux, ça va. Le jeune Mbappé, il reste encore... mais il a pris de plus en plus de place. Et là, au mois de mai, il apprend Benzema revient. Il sait très bien que Benzema va lui passer devant, entre guillemets. Et ouais, bah, t'as perdu Griezmann, t'as perdu Giroud. Parce que clairement, là, quand t'as vu Giroud qui est rentré, pourquoi je me ferais chier pour cette équipe, hein, ça s'est vu, hein. Ça s'est vu, le mec, bon, bah, tranquille, je troquille, je me place, j'en fais pas plus que ce que je dois faire à ce poste-là. Mais je comprends parfaitement je comprends parfaitement, hein, Olivier Giroud. Qu'est-ce qu'il a de plus que Benzema ou Mbappé ou Griezmann? Voilà. Parce que tout le monde dit, ouais, mais ils sont meilleurs. Bah, ils sont meilleurs en quoi? Olivier Giroud, il est vice-champion d'Europe. Bah, comme Griezmann, Mbappé est pas vice-champion d'Europe. Benzema est pas vice-champion d'Europe. Olivier Giroud, il est champion du monde. Bah, comme Mbappé et Griezmann. Olivier Giroud, il a gagné la Ligue des Champions. Mbappé, ah, bah, il a pas gagné la Ligue des Champions. Olivier Giroud, il a gagné la Ligue Europa. Ah, bah, Mbappé, il a pas gagné la Ligue Europa. Donc, tu vois, au bout d'un moment, c'est bien gentil, je ferme ma gueule, comme tu dis, en match de préparation. Et ça s'était vu, hein. Ah, je te fais pas la moindre passe. Là, Olivier Giroud, il rentre contre...
Donc, contre... Les Gallois, je crois.
Non, mais contre les... Oui,
contre la Suisse, oui.
Contre la Suisse, il rentre. Il va se positionner à sa place au centre. Au moment où il arrive, Mbappé s'est foutu là. Parce que, mais tu sais, il existe. C'est pas l'homme invisible, hein, Olivier Giroud. Il a pas disparu comme ça par magie, hein. C'est contre qui qu'il est rentré? C'est contre la Hongrie qu'il est rentré, Giroud. Ou à quart d'heure.
Pas l'Allemagne.
Enfin bref, il enclenche le 1-2 avec Benzema, avec Mbappé. Et Mbappé lui remet pas, alors que le jeu impliquait à ce que Mbappé lui remette. Non, Mbappé préfère dans un angle mort tirer comme un bœuf en place sur le gardien. Non, il arrive à un moment. Je pense que Mbappé pose aujourd'hui plus de problèmes par son comportement. Encore une fois, pas par ses qualités de footballeur, hein, mais par son comportement. Il pose plus de problèmes au collectif que davantage.
Mais il finit par se passer exactement la même chose que Neymar, hein, au Brésil.
Ben, ça fait combien d'années qu'il a l'exemple Neymar devant lui? Parce que d'ailleurs, c'est un comportement qu'il a eu aussi au PSG, hein. La dernière année, il voulait plus jouer avec Cavani, hein. Le pauvre Cavani, alors qu'avec tout ce qu'il avait fait pour Paris, je veux dire, tout le sacrifice dans le jeu, le mec, il te tapait des sprints de 80 mètres pour faire attaque défensive, quoi. Le truc que tu verras jamais Mbappé faire, hein.
Et Zlatan jouait avec Cavani, lui. Même si ça le faisait chier.
Voilà, c'est... Oui, ils sont pas aussi spectaculaires, oui, ils sont pas capables de faire des gris-gris, des roulettes et des choses comme ça, hein, Olivier Giroud ou Cavani. Mais en tout cas, ils sont utiles dans le système de jeu en place, pas dans tous les systèmes de jeu et tout ça. Voilà. Et puis merde, ces sélectionneurs, ils décident que tu joueras avec lui, bah, tu essayes. Il y a des joueurs, ils sont pas compatibles. Tu peux pas parce que footballistiquement, ils sont pas compatibles. Ça arrive. Mais là, t'as même pas essayé, en fait. Donc, voilà. C'est aujourd'hui, ben, ouais, Jacquet s'est passé de Cantona. C'était le meilleur joueur français et de très loin, il s'en est passé. Il a été champion du monde. Bon, alors après, tu sais très bien que t'as le groupe de joueurs Deschamps, Blanc et deux trois autres qui ont aussi un peu fait pression pour dire il faut pas le prendre parce qu'il va foutre la merde en fait. Mais là, la question se pose vraiment. Mais après, attention, hein, je mets pas l'élimination sur le dos de Mbappé, hein. Il a sa part de responsabilité, elle est un peu plus grosse que d'autres, mais t'en as quand même un paquet qui sont quand même genre Pogba, hein, qui avait décidé de ne plus défendre.
Et puis, Pogba, on parle de Monsieur Je me la pète. Oui, son but est beau, mais t'arrêtes de te la péter pendant 2 minutes derrière, quoi.
Oui, non, mais puis tu vois, mais en plus, non, je défends plus. Et derrière, il engueule Pavard. Bah oui, mais dans un système qui est super compliqué où il faut coulisser, tu peux pas, et Pavard, tu les vois pendant le match s'engueuler, les deux. Et, au bout d'un moment, il va même voir Varane, quoi, en fait. Pavard, lui dit, parce que Varane, il fait, Pavard, t'es gentil. Mais Pavard, il peut pas tout compenser. En plus, il était dans un mauvais soir. Clairement. Il peut pas, il lui dit, non, mais c'est Pogba. Varane va aller voir Pogba, il lui dit, écoute, il faut que tu coulisses, tu descends. Et Pogba qui continue à lui dire, non, mais, c'est Pavard qui fout la merde. Non, mais, voilà. Et ça s'est vu dans la première mi-temps qu'il jouait totalement à l'envers. Et c'est normal que derrière, bah, toutes les petites, désententes entre joueurs ben ressorte, parce que ça va pas, parce que t'accuses l'autre de tes propres défauts, finalement. C'est humain, je veux dire, t'en as eu des milliers d'exemples. Mais après, ouais, je reprends cette équipe.
De toute façon, en général, quand tu engueules quelqu'un pour un défaut, tu parles plus de toi que de lui.
Mais, ouais, et puis après, je repense à un truc, je me disais, mais on est arrivé, ouais, on est champion du monde, on est favori et tout, mais j'étais en train de reprendre joueur par joueur, je fais... Mais en fait, elle est plus faible qu'en 2018, cette équipe. Loris n'est pas décisif comme il l'était. Bon, après, c'est pas trop de sa faute. Il n'y a pas eu non plus énormément d'arrêts à faire. Je veux dire, mais c'est vrai qu'en 2018, au moins, il y avait au moins un arrêt spectaculaire, et compliqué, plutôt que spectaculaire, à faire par match, et il le faisait. Varane était plus serein, mais je pense aussi que ça jouait mieux. Tu vois, je me souviens quand même, un sacré paquet de fois, des chants qui hurlaient « Pogba, reste en défense, Pogba défend, Pogba... » Hein ? Et, mais il était plus... Attention, il n'a pas fait un mauvais euro, Varane n'a pas fait un mauvais euro, mais il n'a pas été non plus brillant. Pavard, c'est l'ombre du joueur qu'il était.
Je sais pas pourquoi il n'était pas comme ça, Pavard.
Ben, Pavard, j'ai l'impression que son but de bâtard lui fait plus de tort qu'autre chose. Cache le fait qu'il avait quand même ses limites hein, en 2018, mais il y allait à fond. Là, bon ben ça, ben, il était pas dedans quoi. Bon ben côté gauche, on en parle même pas puisqu'ils étaient blessés. Et Hernandez, forcément, il est moins bon en étant blessé que quand il est pas blessé. Ça c'est. Et Kimpembe, ben il est moins fort que Umtiti. Tu peux dire ce que tu veux, mais Umtiti, il avait un truc d'entrain, d'enthousiasme. Qui faisait que même quand il fait, tu sais pas pourquoi, il a décidé de se matcher de la main le ballon dans son propre but, bah tu lui en veux pas. Kanté, il est moins bon que sur cet Euro, il est moins bon qu'il l'était au mois de mai en Ligue des Champions et en 2018. Bon bah Pogba est moins, enfin Pogba il fait pas le boulot défensif. Mais alors putain, qu'est-ce qu'il a pu nous régaler sur des passes, des ouvertures de génie. Hein. Et ça reste ce problème Pogba, c'est que tu sais toujours pas c'est quoi son poste au milieu en fait.
Je suis d'accord, c'est un bon joueur, c'est un joueur exceptionnel, mais il y a un moment où voilà quoi.
Bah ouais, tu te fais plaisir en jouant offensif, en faisant des gris-gris, en faisant des ouvertures lumineuses, mais il faut faire le boulot défensif quoi. Et là, il l'a pas fait sur cet Euro, c'est pour ça défensivement il est pas bon, mais offensivement il est génial. Griezmann, il est arrivé cuit de chez cuit, ça s'est vu. Clairement, il était Mbappé pour moi, il est plus faible qu'en 2018 parce qu'il a pris ce côté superstar qui n'est pas mérité. Je trouve qu'il a perdu cette spontanéité qu'il avait en 2018, tu vois. Il avait cette insouciance et cette spontanéité qu'il n'a plus, et footballistiquement parlant, je le trouve pas plus fort qu'il l'était il y a 3 ans. Pour moi, il a pas progressé en 3 ans en fait. Il court toujours aussi vite. Il frappe de la même façon, il arrive toujours pas à dribbler ses vis-à-vis, sauf à mettre le coup de rein qui, tu vois, déstabiliser l'adversaire et mettre le coup de rein pour le prendre en vitesse, mais sur des roulettes ou des choses comme ça, bah il essaye mais il y arrive pas. Il est toujours nul de la tête. Ouais, pour moi il a pas progressé en fait. Il est pas plus fort footballistiquement qu'il était il y a 3 ans et il a perdu cette spontanéité. Et puis bon bah Benzema Giroud, ça va être compliqué à comparer parce que ben voilà, encore une fois, j'en veux pas à Benzema, il arrive dans un groupe, il y a pas d'automatisme, il y a pas de mise en place tactique, en plus il change tout le temps des champs parce qu'il sait pas quoi faire. Donc je vais pas reprocher à Benzema qui pour moi en plus a probablement été sur les 4 matchs le meilleur français en fait.
Ouais, bah ouais.
Avec peut-être Rabiot. Parce que Rabiot, même si je trouve que Rabiot, il manque d'initiative, tu vois, il ose pas prendre des risques. C'est, il arrive, il va courir, il va se retrouver face à un défenseur, il va s'arrêter et jouer en passe latérale ou en arrière. Il prend trop rarement. Tu as vu contre la Suisse, c'est à un moment tu fais mais putain, il va frapper. Tu vois, finalement il frappe, ça passe d'ailleurs pas très loin du but, hein. Mais il aurait pu frapper une foulée plus tôt, tu vois. Tu sens qu'il a hésité, il s'est dit est-ce que je frappe ou pas. Tu vois, il prend pas le risque en fait. C'est ça qui, de temps en temps, il faudrait qu'il prenne des risques. Il le fait pas. Mais globalement, il a fait un bon euro et puis surtout, bah, il s'est retrouvé à un poste qui est pas du tout le sien et il a fait le boulot hein, en tant que latéral gauche.
Un bon euro, on parle de 4 matchs. Hein.
Ouais, mais il a pas. Est-ce qu'il y a un match où vraiment tu te dis il a pas été bon? Non.
Ouais.
C'est un peu comme Varane, il n'y a pas vraiment de match où il a pas été bon. C'est vrai qu'ils ont pas été aussi aussi forts que ce qu'on pouvait attendre, mais voilà. Après tous les autres, ils ont été en dessous. Hein. Tous, je veux dire.
Ah mais l'équipe était en dessous globalement. Ça.
Voilà. Et encore plus Deschamps parce que. Bah parce que pour moi il a renié ses idées qui étaient de j'ai un système je joue en place comme ça et ouais quand Minou a décidé d'aller à Budapest plutôt qu'à Bucarest et ben ça passe pas voilà
c'est ça
et voilà maintenant c'est comment ça va réagir dans ce groupe comment tu vas gérer ça parce que là ça a trop explosé entre eux.
Mais les inimitiés des uns et des autres comme ça. La dernière fois que ça a explosé comme ça, c'était 2010. Et encore 2010, c'était plus un conflit avec le sélectionneur, avec les joueurs qui étaient unis. Mais
les joueurs qui étaient unis, t'avais quand même deux clans et ça s'est su qu'il y avait deux clans hein, au sein des Bleus. Hein, donc.
Mais ouais. Bah. Après, on avait un entraîneur qui était pas mauvais. Hein. En 2008 et 2010, Domenech, il était pas mauvais, c'est juste qu'il s'est laissé dépasser par les grandes gueules. Je pense, j'en suis convaincu de ça.
Ah, mais pour moi, là, de toute façon, Deschamps a perdu le leadership. Il a trop cédé aux joueurs. Il a trop cédé à Kylian Mbappé, il a trop cédé à, et quand t'arrives, bah, Kylian, il veut jouer dans l'axe. Benzema joue dans l'axe. C'est même pas une question qu'il demande, et c'est son poste. Griezmann veut jouer dans l'axe, bah oui, mais tu peux pas jouer avec trois joueurs dans l'axe. Ça, c'est pas possible.
Et Deschamps, ça fait 8 ans qu'il est là.
Mais regarde bien sur cet Euro. Est-ce que tu l'as vu, comme à l'Euro 2016 ou à la Coupe du Monde 2018, être en train de d'houspiller les joueurs pour leur dire « Tu te remets là, tu bouges pas, tu restes
en défense ». Non, il était sur son banc, il attendait.
Oui, il était spectateur, en fait, vraiment. Et tu le voyais, il avait la tête basse ou il s'exclamait de joie comme un spectateur. Il était pas en train de diriger ses hommes, en fait. Et tu vois, bah oui, Coman, tu sors, t'es blessé, tu sors. L'autre, il fait « Non, je reste sur le terrain ». Bah oui, bah non. En fait, tu choisis pas. Si l'entraîneur a décidé de te sortir, tu dois sortir.
Ah mais c'est et c'est ce que Djorkaeff disait là dans le mag juste après. Ce que j'écoute, ce que dit Djorkaeff, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais en général sur les ressentis des joueurs, il est assez bon. Il dit mais on est joueur, on a envie de continuer à jouer. Mais
oui.
C'est le coach qui décide. Enfin. Hein
mais quand tu vois ce que Pochettino il dit au sujet de Mbappé, c'est Mbappé qui décide. Et c'est ça le problème. Mbappé, il a dit, je vais tirer les coups francs. Alors que c'était le truc de Griezmann, hein. Je vais tirer les coups francs. Mais pourquoi? T'en as jamais mis un, en fait. T'es pas bon. Et on l'a vu, là, les deux ou trois coups francs bien placés, il les a, même quand ils étaient pas de, pour lui, il les a frappés. Mais pourquoi, en fait? C'est pas, bah parce que monsieur, il veut tirer les coups francs. Monsieur, il veut tout faire. Ben, monsieur, tu vas le foutre tout seul face à 11 joueurs et démerde-toi, hein.
Et monsieur, il se prend pour Cristiano Ronaldo.
Ah, c'est vrai que c'est vrai que tu revois le Cristiano Ronaldo de la période Manchester United et puis au début du Real de Madrid. C'est je prends la balle et je ou le Ribéry de 2010, tu vois. Le joueur de 2008-2010 ils y arriveront pas, je vais être le sauveur, je prends le ballon, c'est moi qui vais tout faire parce que les autres sont incompétents, sont incapables. Il y a que moi qui peux sauver l'équipe de France ou l'équipe de tel club hein.
Je pense pas qu'ils pensent qu'ils sont incompétents mais je pense qu'ils pensent que sans moi, ils ne peuvent rien.
Si, si, Mbappé, il est clairement, Giroud, il est incompétent. Et encore une fois, bah, quand tu compares le palmarès de Giroud, excuse-moi, bah, pour moi, il est supérieur au tien. Hein. Bon, maintenant, quand il arrivera à 35 ans, je pense que Mbappé aura beaucoup plus de titres et de records que Giroud à 35. Mais,
mais Giroud a le mérite de pas jouer dans un club espagnol.
Mais après, bah Giroud, oui, non mais il a 35 ans, tu lui dois le respect. Le mec, il est là depuis 10 ans en équipe de France, il n'y a plus rien à prouver. Même si tu l'apprécies pas, tu lui dois le respect. Et clairement, il n'y a pas de respect pour lui.
Mais je pense que Giroud, il sort de l'équipe de France, il arrête sa carrière internationale. Je pense qu'il peut régler ses comptes. Je sais même pas si c'est dans sa mentalité.
Non. Non, mais au bout d'un moment, pour faire sa sortie qu'il fait à la suite du match de préparation devant les médias, j'ai fait le mec, il en peut plus là. Là, clairement, il y a un problème dans le groupe. Bah oui, bah Mbappé l'a foutu sur la touche. Je veux pas jouer avec lui. Tu sais que Benzema est revenu, il va te repasser devant alors que t'as été l'attaquant vedette qui a porté l'équipe de France et qui l'a amené Bah, il a pas, même s'il a pas marqué à la Coupe du Monde, il l'a amené champion du monde, je veux dire, tu dois un minimum de respect, hein.
Mais tu vois, la période Monaco, aux premières années à Paris, il avait la tête froide. Mbappé.
Oui, bah, il démarrait sa carrière pro, en fait. Pour moi, oui, Paris, c'est la pire destination pour un joueur, hein. J'ai peur pour le Wijnaldum, là, hein, qui reste un jeune joueur hollandais, voilà, c'est...
Ouais.
Mais là, après, derrière, pour moi, Deschamps peut pas rester, parce que de toute façon, ça fait 9 ans, et je pense pas qu'un sélectionneur puisse aller vraiment au-delà de 8 ans, hein. Clairement.
Mais il a pas signé pour le Qatar, déjà?
Si, mais bon, pour moi, je suis désolé, c'est pas normal que l'équipe de France, en tant que championne du monde, soit sortie en 8e de finale. Et peu importe que ça soit les Suisses ou ça aurait été l'Allemagne, c'était pareil. C'est pas normal. Pour moi, c'est un véritable échec.
Ça dépend, tu vois, si c'est un match type, France-Argentine de 2018, un match de dingue dans tous les sens, que tu te fasses sortir, ok. Enfin, tu vois, c'est. Mais là.
Mais c'est ça le truc, c'est que derrière, enfin, je veux dire, l'équipe de France était même pas sortie du stade, qu'on était en train déjà de lui chercher des excuses au niveau des journalistes et tout ça. Oui, mais ça va, elle a pas perdu en fait. Hein, c'est la loterie des tirs au but, le truc que je déteste. Non, parce que là, c'est pas une loterie. Mbappé, il a pas bien tiré son penalty. Il est à hauteur parfaite pour un gardien. Je veux dire, si le gardien part du bon côté, n'importe quel gardien la sort, celle-là. Donc, non, il l'a pas bien tiré, je suis désolé. Bon, ça arrive à tout le monde, ça, je suis d'accord. Hein.
Dans sa décharge, il a quand même pris la responsabilité de tirer le cinquième.
Après, il doit pas la prendre. Pour moi, c'est lui qui est arrivé. Non, je vais être le cinquième pour être le héros. Je vois comme ça. Je n'imagine pas le Didier Deschamps te dire à un mec qui n'a jamais fait de tir au but dans une séance décisive de tir au but. De lui confier le cinquième poste. Le premier et le cinquième sont les deux plus importants. Tu dois pas le mettre. Et même s'il l'exige, non, tu vas tirer en troisième ou en quatrième, mais pas en cinquième.
Moi, je le mets en deux, mais un mec qui a jamais fait ça, je le mets en deux.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est, non. Et là, il se retrouve en cinquième position. Bon, bah, ouais, mais voilà, justement, il prend ses responsabilités et tout. Ça montre un grand caractère et tout. Ouais, mais non, encore une fois, puis il faut revenir qu'il a pas bien tiré son penalty. Attention, tout le monde dit il a raté, non, il a été arrêté, machin, mais encore une fois, n'importe quel gardien qui part du bon côté, il l'arrête, hein. Il tirait vraiment de façon trop parfaite pour le gardien, c'est ça, je veux dire.
C'est ça.
Donc bon, voilà, le mec, en plus, tu le fais tirer en cinquième, il est cuit, il a tout raté dans le match. Je veux dire, il a quand même raté des actions qui sont normalement inratables pour un attaquant de son niveau, hein. Les frappes enroulées qu'il sait si bien faire, qu'il passe à 2 mètres du but. T'as cette occasion à la 110e où il s'en met la moitié des pinceaux, il est à 3 mètres du but, il te l'envoie.
Depuis le début de l'Euro, il rate tout, hein.
Je veux dire, ouais, pour moi, Deschamps n'avait aucun contrôle sur ce groupe, il a plus de contrôle, et tu te retrouves dans la situation de Domenech. Domenech, tu vois, après 2008, où c'est les joueurs qui ont dit décider s'il restait ou pas, il avait plus son mot à dire, et ça conduit à Naïfna derrière. Bah, le problème, c'est que tu mets qui à la place de Deschamps? Bon, Zidane, il est libre, mais pour moi, Zidane, ça va être le copain des joueurs, hein, ça sera exactement la même chose, hein. Donc, ah non, ouais. Je crois que Laurent Blanc, c'est vrai, il est sous contrat au Qatar. Ou en Arabie Saoudite.
Et puis, il a déjà été, surtout.
Ouais, mais il pourrait revenir, hein, je veux dire, mais,
Laurent Blanc, il a eu le mérite de faire 2010-2012, qui était la pire période.
Raymond Domenech est libre, hein, depuis...
Parce que 2012, il fait un quart de finale contre l'Espagne. Hein.
Oui, mais à l'époque, quand tu sortais des poules, t'étais déjà quart de finaliste.
Oui, je suis d'accord, mais il fait un quart de finale. Et bon, on en prend deux en quart de finale, mais c'était mérité.
Mais bon. Ouais, puis l'Espagne était quand même très très forte. Hein.
Oui, c'était imbattable.
Et nous, on était une équipe en reconstruction. Donc
c'est vrai, c'est vrai. Mais l'Espagne était-elle aussi forte que l'Angleterre, Nico? Ce qui nous reste de 8e de finale.
Ouais, mais non, j'ai pas envie d'en parler. Franchement, tu veux vraiment parler de Suède-Ukraine?
Ah oui, monsieur.
Un partout, fin du temps réglementaire, et donc but des Ukrainiens, la 121e,
dans une prolongation que personne voulait jouer.
Clairement, oui, personne voulait la jouer. Je pense qu'en temps de jeu effectif, ces 30 minutes doivent se résumer à 2 minutes 40 à peu près, hein, en temps effectif de jeu. Ça se roulait par terre de tous les côtés. Ça a été quand même assez bourrin comme match. Hein.
Ah oui, ça.
D'ailleurs, il faudrait que je sais pas, l'Ukrainien qui est sorti sur blessure, qui s'est fait dézinguer son tibia. Mmh. Dans quel état il est, quoi, en fait.
Bah, ouais, je sais pas trop.
Parce que quand même, il a été soigné super longtemps, il posait pas du tout le pied par terre, je me demande s'il s'est pas fait péter la jambe, carrément. Hein. Donc ça a coûté, ça a coûté un carton rouge à Danielson, qui est absolument logique.
C'est Zubkov, non?
Justement, je recherche c'est qui a été blessé.
En tout cas, Zubkov, sur le site de l'UEFA, est marqué comme incertain pour le quart de finale.
C'est pas Stepanenko qui s'est fait blesser, parce que finalement, je suis en train de regarder qui est sorti à quelle minute, ou Bessédine, parce que c'est les deux qui correspondent au niveau changement. Hein.
Ben alors, c'est l'un des deux, tu as raison. Mais ils sont pas marqués, incertain pour le prochain match.
Ah ouais, mais il a peut-être l'euro qui est fini, hein, si l'autre, son euro est fini. Ouais, donc du coup, ouais, c'était pas du tout le match le plus passionnant, hein. Le pauvre Julien au commentaire sur TF1.
Bah, il a dû tout faire. On avait l'impression que Sabrina Delannoy était partie.
Oui, c'était. J'ai vu la fin du match et puis les progressions. J'ai pas tout vu, mais sur ce que j'ai vu, la façon dont, au moment où je suis arrivé, la façon dont le pauvre Julien y parlait, je me suis dit, oula, ça a dû être le match bien, bien chiant, quoi. Donc ouais. Voilà. Après, bon, les Suédois, j'ai envie de dire, bon, j'étais plus pour les Suédois, mais d'un autre côté, ouais, bah, t'as vu les limites suédoises, quoi. Enfin.
Ah bah ça, oui.
Ouais. Mais n'empêche, les Ukrainiens, ils ont ce mérite d'avoir été jusqu'au bout. Ils ont attaqué jusqu'au bout et du coup, ça leur a réussi, quoi, parce que du coup, ils ont quitté la séance de tir au but. Je veux dire, les Français auraient peut-être pu s'inspirer des... Bon, ils auraient eu du mal, hein, parce que c'était 24 heures après, mais... ils auraient peut-être pu s'inspirer, entre guillemets, de ce qu'ont fait les Ukrainiens, d'aller jusqu'au bout du bout. Donc, j'essaie de revenir sur le fil de match, donc là, c'est 98e que l'autre, il se prend son rouge, donc... Oui, en plus, il s'était pris à jaune, hein, seulement.
Non, c'est la VAR qui a pris le rouge. Tiens, c'est marrant. Pour une fois,
il y avait Bessédine qui a. Bessédine.
Mais c'est marrant, du coup, t'as vu, hein. Pour une fois, on a checké le rouge pour la VAR parce que c'était un petit sujet d'Ukraine, tout le monde s'en foutait.
Ouais, non. Grave blessure pour l'Ukrainien Bessédine qui sera absent plusieurs mois.
Ah
oui, bah, il l'a découpé, de toute façon.
Il s'est fait péter la jambe, le gars.
Déchirure partielle des ligaments croisés qui va le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs mois.
Wow.
Il est évidemment forfait pour le quart de finale. Sans déconner.
Non, mais son objectif, c'était quart de finale. Maintenant, il est en vacances.
Donc, Andrei Shevchenko, le sélectionneur, on est très inquiet pour lui. On espère que les ligaments ne sont pas touchés. Confiait-il après la qualification, malheureusement, les ligaments sont bien touchés. Le joueur devrait être absent entre 3 et 6 mois, selon un rapport publié sur le site de la Fédération ukrainienne de football.
Eh bon.
Ouais. Non, je veux dire, oui, le geste n'est pas du tout contrôlé. C'est un
non,
geste
non.
De toucher.
Il joue le ballon, mais il contrôle rien.
Ah, il joue le ballon, ouais, mais tu tacles pas à 50 cm du sol non plus. Je veux dire, il a le pied à 50 cm du sol, hein. La
règle dit que on applique la règle, ça me choque pas.
Ah non, mais c'est pas la question. Pour moi, c'est pas de choquer qu'ils prennent un rouge. Le choc, c'est déjà un, qu'ils le prennent pas directement. Deux, comment un défenseur à ce niveau-là peut faire une faute de... Non, ça a pas de sens. Ouais. Bref.
Comment un défenseur néerlandais peut coller une main comme ça? Enfin, tu vois, c'est ça non plus, ça a pas de sens.
Ouais. Bref, bon, tout ça, ça envoie les Ukrainiens à Wembley pour aller jouer contre
l'Anglais. Non, pas Wembley. Pas Wembley, c'est à Rome.
Tu te fous de moi, là?
Non.
Ils ont pas d'avion, les Anglais.
Ils sont sur une île, ils prennent le bateau.
Non, mais en plus, ils vont devoir se taper, quand ils vont revenir, une quarantaine. Donc,
Mais il y a un voyage. Il y a un voyage à Rome.
Ils iront donc jouer.
Ce sera le seul de l'Euro.
Ils auront donc joué, oui, rappelons que Rome est ville de pays hautain. Donc ils auront joué les Anglais qui se sont défaits des Allemands 2-0. Donc devant quand même 41 973 spectateurs à Wembley, hein, on sent que les jauges c'est plus tout à fait les mêmes.
Ben non, parce qu'ils ont été augmentés, parce que l'UEFA menaçait de faire la finale à Budapest, parce qu'à Budapest on a le droit de remplir le stade.
Voilà.
Et ça, puis, c'est un scandale.
Puis on a fait sauter la quarantaine de 7 jours aussi, hein, pour les
c'est
supporters.
Ça. Ben,
et les joueurs.
C'est aussi scandaleux que la FIFA, qui, alors que le Brésil n'avait pas le droit de vendre de la bière dans ses stades, a fait changer la règle parce que le sponsor était Budweiser.
Oui, ou qui déplace la Copa América au Brésil parce qu'il y a trop de cas de coronavirus dans les deux pays qui devaient l'organiser. Tu te fous de la gueule du monde. Le Brésil, c'est le pire pays au monde.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tout est fait pour que le Brésil la gagne. Hein. Au vu des arbitrages, mais bon.
Oui, mais bon, les Ukrainiens joueront pas les Brésiliens en quart. Ils joueront donc les Anglais qui se sont défaits des Allemands 2-0. But de Sterling et enfin de Kane. Deux fois le même, d'ailleurs, le but. Hein.
Oui, bah...
Ah, les Allemands, ils se font avoir deux fois de la même façon. C'est...
Mais je te dis, comme toutes les... Pour moi, j'ai eu l'impression de voir la Grèce en 2004. Toujours le même but.
Mais, ouais, les... c'était un match qui était quand même plutôt plaisant, ça... Ça jouait quand même bien des deux côtés. C'était pas un haut niveau technique, mais il y avait de l'envie. Tu vois.
Je suis d'accord. Néanmoins, les Anglais ont quand même bien dominé la première mi-temps. Le dernier quart d'heure, les Allemands se sont rebellés, mais après la 60e, les Allemands étaient cuits.
Il y avait quand même un paquet de fois où c'est quand même Hummels qui a sauvé la baraque aussi chez les Allemands, hein, parce que il y a eu deux trois tacles retour de dernier espoir là sur.
Ah ben celui qui sauve là en sortant la balle des pieds de je sais plus quel attaquant anglais.
Oui, à 3 mètres de la ligne. Oui,
c'est à montrer dans toutes les écoles ce truc hein parce qu'il te le sauve.
Ouais, il a maintenu quand même les Allemands. Maintenant les Anglais il y a quand même des limites hein, tu sens que c'est pas non plus une équipe fantastique sur le papier quand tu vois tous les noms oui, mais dans les faits ouais, c'est plus à la volonté qu'à la qualité. Technique pure qu'ils ont.
On est d'accord, mais qu'ils organisent directement l'euro en Angleterre et qu'ils l'assument, enfin, très clairement. Les Anglais, c'est la seule. Enfin, toutes les autres équipes ont eu des voyages à faire, depuis les huitièmes, parfois un peu chiant. Les Anglais, c'est les seuls à ne pas avoir voyagé jusque-là. Ils vont faire un aller-retour à Rome derrière, ils retournent à Wembley. Moi, je pense que si l'Angleterre est en demi, l'Angleterre gagne l'euro. Enfin, c'est terrible.
Et je pense que. Ils ont les moyens parce que les Ukrainiens, les Anglais mettent quand même beaucoup de rythme dans leur match. Hein. Je pense pas que les Ukrainiens physiquement ils vont tenir. Hein.
Après, quand tu regardes les quarts de finale, ça va être intéressant parce que Suisse-Espagne d'un côté, Belgique-Italie de l'autre. Si je dis pas de bêtises, les deux vainqueurs s'affrontent. Pour les Belges, vu ce que les Espagnols et les Suisses ont montré, s'ils passent l'Italie qui a pas été ouf en huitième. Le tableau, il est ouvert hein, jusqu'à la finale. Et de l'autre côté, bah, République Tchèque, Danemark, Ukraine, Angleterre, sans vouloir faire offense aux trois autres pays, le tableau, il est ouvert pour les Anglais.
Donc toi, tu verrais un Belgique-Angleterre en finale?
Moi, je le sens bien comme ça.
Ah non, moi, je suis juste que les Belges, ils sortent, quoi. Alors vraiment, les Italiens, c'est un truc, voilà, j'ai déjà dit, hein, il y a ce truc, mais là, j'ai tellement envie que les Italiens te sortent, les Belges, pour qu'ils redescendent un peu sur terre, hein.
En même temps, ils font un bon boulot.
Ouais, mais non, c'est juste, tu vois, ce comportement depuis 3 ans de nous reprocher. Là, on se fait sortir par les Suisses. Ils sont sortis dans les rues, klaxonnés et balancer des France en tant que cul, France en tant que cul, quoi. Mais calmez-vous, quoi. Enfin, ça reste que du foot, hein.
Ouais, c'est ça.
Et ouais. Bon, donc du coup, tout ça, ça nous offre en quart de finale Belgique-Italie. Alors, c'est le temps du prono.
Ah, les temps du prono. Cache à chaud comme ça.
Je te prédis une bonne audience pour M6.
Oui. Belgique-Italie, 2-1 pour les Belges.
3-1 pour l'Italie, moi, je le mets.
Ah, ouais. Ouais.
Que je sens que je sens
un 2-1 pour l'Italie est pas volé non plus. Je vois bien un truc à partout et
je
une
sens, prolongation. Tu vois De Bruyne trop limité pour pouvoir porter l'équipe belge et la cuisse de Zidane. Hein. Mm. Donc ensuite Suisse-Espagne. Oh.
Et là en vrai bien malin qui pourra dire le vainqueur de ce truc.
Je pense que ça dépendra aussi beaucoup de l'état physique des Suisses.
Moi, je vois bien 2-1. Puis les Suisses, ils ont beaucoup voyagé depuis le début de l'Euro, quand même. Et sachant que là, en plus, ils vont se refaire Bucarest-Saint-Pétersbourg. Enfin, bref.
C'est moins là que Bucarest-Bakou.
Moi, je le vois bien. Non, je pense que c'est à peu près la même chose. Mais je pense que si tu traces un arc de cercle, ça t'arrive à peu près au même rayon. Mais ouais, je dirais bien 2-1 pour les Espagnols. J'aimerais que les Suisses y aillent. J'aimerais un Belgique-Suisse en demi. Mais non, les Espagnols vont passer.
La vraie déception, c'est que l'Autriche s'est fait sortir par l'Italie. Sinon, on aurait pu viser une demi-finale 6 Autriche, quoi. Ça aurait été magnifique.
Ça nous aurait rappelé l'Euro 2008.
Allez, moi, je tente le pari sur les Suisses, en fait. Pour avoir un petit Italie-Suisse dans le derby alpin. Mmh. Donc, je vais dire les Suisses, un partout et prolongation 2-1.
Ben moi, tu vois, c'est ce que je vois, mais pour l'Espagne.
Mmh. Ensuite, Ukraine-Angleterre.
2-0. Sans appel pour les Anglais.
Ouais, pareil. Là, pour le coup.
Un truc, genre, tu vois, un but par mi-temps, ou un but à la 45e et un but à la 80e parce qu'ils sont cuits d'avoir couru et tenté de remonter, quoi.
Et dans le match qui n'existe pas, Tchéquie-Danemark, ben, je vois les Danois, 3-1.
Ah, voleur. J'allais dire la même chose.
Ben, t'as le droit, hein. J'ai bien pris ton 2-0, de l'Angleterre-Ukraine, donc tu peux prendre mon 3-1.
Ouais, non.
Danemark-Tchéquie.
3-1 pour les Danois.
Donc, ce qui nous donnerait donc des demi-finales Angleterre-Danemark, là, on est d'accord. Et puis toi, tant que tu vois une Belgique-Espagne, tandis que moi, je vois une Italie-Suisse de l'autre côté. Bon, bah, ça sent le Italie-Espagne ou Belgique-Suisse.
Oui, c'est ça.
On a tellement de bol.
C'est ça.
Et donc, ça sera le 2 et le 3 juillet à retrouver, donc, Belgique-Italie sur M6, Suisse-Espagne à 18h sur TF1, et Ukraine-Angleterre sur TF1 aussi. Ouais. Donc le 3 juillet. Et donc Tchéquie-Danemark, ben, soyez abonné à Bein Sport, ou frontalier, où vous pourrez regarder sur les chaînes en clair de la RTBF, de la ARD, de la RTS.
Ouais, ça.
Ah,
le Danemark n'a toujours pas été diffusé.
Ah, sur en clair. Ah, si, en demi-finale, ils seront obligés d'être diffusés.
Oui, c'est ça. La République tchèque, on a vu le match, on a vu un match de poule, face aux Anglais, je crois.
Ouais. Ouais. Ouais, donc, du coup, nous, on se retrouvera, donc, le 4 ou 5, le 5 probablement, pour l'analyse de ces quarts, de ces 4 quarts délicieux.
Oui, voilà, c'est fait.
Voilà. Oh, c'est fait, ça sera refait hein, d'ici l'émission sur les quarts. Donc, merci de nous avoir écoutés, soyez pas dégoûtés, hein, ça arrive d'être éliminé, c'est pas grave. Maintenant, on va laisser les responsabilités être
prise.
Oui, être désigné suite à cette donc honteuse élimination hollandaise. Hein.
Oui, c'est ça.
Et puis, vous inquiétez pas, on aura quand même un point sur les Bleus en quart de finale. Mais comme le Mac de Denis Brognard, même en finale, on arrivera à parler des Bleus.
C'est ça.
3 semaines après l'élimination, on parlera encore des Bleus.
Alors, il y a Griezmann à Ibiza.
Allez, à la prochaine. Bye bye. Pourquoi il irait à Ibiza, Griezmann?
Je sais pas, parce qu'il est en Espagne.